Bien. Alors, je vais reprendre aussi cette question de l'intégration à l'école, mais en l'interrogeant sous un angle particulier, puisque je vais me concentrer sur la manière dont à l'école, le traitement scolaire de l'islam, de ses expressions et de ses signes dans l'espace scolaire. Alors, cette question de l'intégration, j'ai mis dans mon titre hein, et ici dans cette slide l'intégration entre guillemets, puisque on l'a bien compris d'ailleurs avec l'exposé de Françoise Lorcerie, l'intégration c'est avant tout une notion politique et institutionnelle avant d'être un concept scientifique. Alors c'est quand même un terme qu'on utilise dans le champ scientifique. Il y a des sociologues, il y a des auteurs en France comme à l'étranger qui l'utilisent comme une catégorie scientifique, mais ça pose quand même question et il y a des débats sur cet usage scientifique. Donc moi je la considère ici avant tout, cette notion d'intégration, comme une catégorie d'acteurs. Et justement dans mon exposé, l'objectif est de voir en quoi cette notion d'intégration a pu être utilisée dans le champ scolaire en lien avec la question religieuse et plus spécifiquement à la question de l'islam. Alors mon exposé va se dérouler en deux temps. Donc un premier temps sur lequel je vais passer peut-être un peu rapidement puisque Françoise a très bien présenté cette généalogie en fait du problème de la diversité mais aussi de la laïcité à l'école. Donc je vais passer un peu plus vite mais je vais quand même essayer de distinguer moi aussi plusieurs moments. Donc c'est dans cette définition de l'islam comme un problème à l'école hein, donc je vais revenir sur cette approche plus historique. L'idée en fait c'est de revenir un peu là-dessus puisque ça constitue pour les enseignants un contexte politique, institutionnel, social plus généralement, et puis aussi parce que ce contexte contribue à encadrer normativement leur travail puisque les textes officiels, les directives mais aussi les programmes scolaires et la façon dont ils se sont positionnés sur ces questions de diversité religieuse et d'islam, eh bien ça contraint aussi, ça définit aussi leur travail au quotidien. Puis ensuite, donc dans un second temps, et ça sera une partie sans doute un petit peu plus longue, je vais me concentrer justement sur les acteurs et les actrices de terrain, et donc en particulier sur les enseignants dans leur classe, hein, sur leur perception, leurs attitudes et leurs pratiques à l'égard de tout ce qu'ils peuvent considérer comme étant des manifestations de l'islam à l'école. Donc je vais m'interroger sur les situations qu'ils relient à l'islam, en me demandant dans quelle mesure ils les considèrent comme problématiques ou non, et si oui, selon quelle logique, avec quelle signification et en s'appuyant sur quelle vision du monde. Donc, premier temps de mon intervention, je vais donc là m'intéresser à la construction publique et institutionnelle dans l'institution scolaire de ce qu'on peut appeler et de ce que certains auteurs ont appelé le problème musulman. Donc je vais distinguer moi aussi plusieurs moments, et cinq moments, Françoise aussi en avait distingué cinq, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes puisque je reprends un petit peu plus tôt. Je m'appuie aussi beaucoup, donc non seulement sur les textes officiels, mais aussi sur les programmes scolaires et le contenu des manuels scolaires, des ouvrages pédagogiques, donc ce qui atteint un petit peu plus en fait les enseignants. Et donc un premier moment qui m'a beaucoup intéressée parce qu'en fait il constitue une sorte de parenthèse, une parenthèse timide et assez vite refermée en réalité, c'est cette parenthèse des années 70 et de la première moitié des années 80. Qui en fait vient prolonger les orientations qui avaient été celles d'acteurs, donc d'acteurs politiques, mais aussi d'acteurs associatifs situés plutôt à gauche, et qui, dans une perspective antiraciste, dans une perspective anticolonialiste, on va chercher à valoriser dans les classes la reconnaissance de ce qu'on appelle à l'époque les cultures d'origine, ou encore les cultures immigrées. Et donc, il y a cette idée l'idée que la France est aujourd'hui diverse, puisqu'elle accueille beaucoup d'immigrés, et qu'il faut le prendre en compte. Et on trouve ça dans les programmes scolaires, y compris dans les programmes scolaires qui seront adoptés en 1985, lorsque Jean-Pierre Chevènement est ministre. Donc, le rapport de Jacques Berthe, c'est vrai, a été enterré, mais quand même, dans les programmes scolaires et aussi dans les ouvrages pédagogiques, on trouve une trace de cette valorisation de la diversité. Donc, les cultures immigrées sont mises à l'honneur dans un certain nombre d'activités qui sont proposées aux enseignants. Abdelmalek Sayad avait dit d'ailleurs qu'il s'agissait là d'une intention qui relevait d'une forme de contre-ethnocentrisme. Il s'agissait justement de favoriser une intégration des enfants d'immigrés, mais de favoriser cette intégration en reconnaissant leur supposée identité et spécificité culturelle. Donc il y avait une volonté de contrer un ethnocentrisme possible. Et ça, on en trouve des traces assez fortes dans toute cette littérature pédagogique de la première moitié des années 80. Alors, ce qui est intéressant, pour revenir justement sur l'islam, c'est qu'en fait, la dimension religieuse est plutôt en retrait dans cette valorisation de la diversité. On va plutôt mettre en avant des traditions culinaires, vestimentaires, etc., des langues, mais on va beaucoup moins parler de religion. Alors ça arrive, il y a quelques ouvrages, par exemple quelques manuels scolaires qui mettent aussi à l'honneur cette pluralité religieuse qui est en partie liée à l'immigration. Et je me souviens donc d'un manuel de l'école primaire qui propose tout un chapitre en fait qui vise à illustrer la pluralité religieuse et qui insiste en particulier sur l'islam. Donc je vous ai mis la référence. Donc c'est un chapitre qui s'appelle Hakim fait le Ramadan, extrait d'un manuel d'éducation civique de 1986. Et donc, c'est un ouvrage qui est en fait un livret du maître, donc qui est proposé aux instituteurs et aux institutrices. Les auteurs invitent en fait les enseignants à amener les élèves visiter non seulement une église, mais aussi une synagogue et une mosquée, un petit peu pour découvrir cette diversité religieuse de la France. Alors, ça, c'est quand même plutôt rare, même si on le trouve dans quelques activités, dans quelques pratiques de classe. Il y a quand même aussi des travaux sur la mise en œuvre dans les classes de ces orientations. Et voilà, la dimension religieuse reste quand même très, 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 très secondaire dans cette mise à l'honneur de la diversité. Alors, cette valorisation de la diversité pose un certain nombre de questions. C'est assez connu, donc je ne vais pas m'étendre, mais c'est vrai qu'en renvoyant ces enfants d'immigrés à l'école, qui sont pourtant en fait nés en France, à leur supposée culture d'origine, eh bien, on les confine à un statut d'étranger, à un statut d'extranéité, et on ne pense pas les transformations culturelles, les transformations sociales qui sont celles qui sont liées à ce contexte de migration. Et puis par ailleurs, et ça, Sayad l'avait bien aussi souligné, cette focalisation sur les aspects culturels de l'intégration empêche que soit traitée tout à fait pleinement la question des inégalités sociales, des inégalités scolaires qui touchent ces enfants, et comme bien d'autres dans les milieux populaires, mais qui touchent aussi ces enfants particulièrement. Ce qu'on peut constater, en tout cas, sur la question de l'islam, c'est que, justement, dans cette période-là des années 80, c'est encore une non-question. C'est pas quelque chose qui fait l'objet d'une réflexion ou d'inquiétude particulière. Donc, tout change à partir de la fin des années 80 et de ce qu'on a appelé la première affaire du foulard en 1989. Et donc là, on a un vrai tournant, puisque à partir de ce moment-là, dans les débats publics, dans les discours médiatiques, eh bien, l'islam et ses manifestations, en particulier à l'école, à travers des signes religieux, vont occuper de manière récurrente le devant de la scène, dans les médias, dans les journaux télévisés, etc. Et pour ce qui est de l'éducation nationale, qu'est-ce qu'il en est ? Eh bien, dès cette période, fin des années 80 et années 90, on peut constater que vont émerger des grilles de lecture qui prendront plus tard beaucoup plus d'importance, mais qui déjà apparaissent à ce moment-là, et notamment une grille de lecture de la situation en termes de communautarisme. Et c'est... Je suis encore sur la bonne slide. En termes de communautarisme, et donc là, je fais référence, je pense en particulier à la circulaire qu'a évoquée Françoise, la circulaire de 1994, qui est adoptée lorsque François Bayrou est ministre de l'Éducation nationale, et qui invite les établissements à bannir les signes religieux considérés comme ostentatoires, mais c'est une invitation, hein, c'est une circulaire, c'est pas encore dans la loi, et qui considère justement le port du voile comme étant associé à un risque, je cite, « d'éclatement de la nation en communautés séparées, indifférentes les unes aux autres, ne considérant que leurs propres règles et leurs propres lois ». Donc Françoise l'a dit, cette circulaire a une teneur politique et idéologique très forte, hein, puisque voilà, c'est une circulaire et pourtant elle contient toute une vision politique de ce qu'est la France, de ce qu'est la nation, de ce qu'est la laïcité, de ce qu'est la place de l'islam dans la société française. Alors, cependant, pour nuancer un petit peu, malgré cette circulaire-là, ce qu'on constate, c'est que les différents ministres de l'Éducation nationale, dans les années 90, vont refuser de mettre en œuvre une interdiction du port du voile par la loi, donc une interdiction qui aurait été générale. Et puis, ils vont quand même plutôt s'employer à calmer les polémiques, à dépolitiser cet enjeu du voile. Et donc, finalement, jusqu'au début des années 2000, on a une approche de l'intégration qui met plutôt l'accent sur la lutte contre les inégalités territoriales. Hein, c'est toute la politique des zones d'éducation prioritaires, la lutte contre les inégalités socio-économiques. On a cette idée quand même d'une intégration culturelle, hein, d'une dimension culturelle de l'intégration, mais on la pense plutôt positivement, plutôt tranquillement. On pense que l'école va jouer ce rôle d'acculturation des enfants d'immigrés. Et donc, il y a cette vision qui est relativement optimiste encore dans les années 90. Alors, on a ensuite... Donc là, je change, voilà... De ça. On a ensuite, donc là c'est le même moment hein, que tu distinguais, qui est quand même très particulier, 2002-2012. On a ensuite un tournant en 2002 avec un changement politique, une alternance politique, mais aussi ça va avec un changement de composition de certaines instances qui jouaient à l'époque un rôle central dans la définition de la politique française d'intégration. Donc je pense effectivement au Conseil d'intégration dont a parlé Françoise. Je pense aussi à la mise en place d'une institution qui n'existait pas, d'une instance qui n'existait pas, la commission Stasi, qui va être chargée de réfléchir à la question de la laïcité. Et je pense aussi aux acteurs qui vont participer de cette redéfinition au sein des ministères, des différents ministères, dont le ministère de l'Éducation nationale. Donc, ce qui va s'affirmer à cette époque, c'est la vision d'une institution scolaire menacée par le fondamentalisme musulman. Donc c'est une vision qui s'affirme dans les discours institutionnels, dans les discours de ces instances dont j'ai parlé, Commission Stasi, HCI, mais aussi dans tout un tas d'ouvrages, certains grands publics. Je pense par exemple au Territoire perdu de la République, qui sera publié à ce moment-là aussi. Et ce qui est assez intéressant, et donc ça, des sociologues l'ont montré, je pense au travail de Abdelali Hadjat en particulier sur le HCI, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, l'expertise sur cette question s'éloigne largement des sciences sociales pour faire beaucoup plus de place aux témoignages. Et en l'occurrence, aux témoignages édifiants sur les risques que fait peser sur l'école le fondamentalisme musulman, les formes d'obscurantisme religieux. Hein, donc on a un certain nombre de sociologues qui étaient consultés, par exemple, dans la période précédente, qui sont beaucoup plus en retrait. Et ça se voit notamment dans la composition des différentes instances, comme celle du HCI. Et donc, on a toute une coalition d'acteurs assez hétérogènes, mais qui vont finalement se retrouver et promouvoir, enfin défendre l'adoption d'une loi. Et donc, cela aboutit à justement cette loi de 2004 qui prohibe les signes religieux, les signes manifestant de manière ostensible l'appartenance à une religion. Donc, c'est à ce moment-là que, également, le thème du communautarisme, qu'on avait vu un peu pointé dans la circulaire de François Bayrou que j'évoquais, que le thème du communautarisme devient un thème central hein, dans ses rapports, dans ses discours publics, mais aussi dans la littérature qui atteint directement l'école, puisque, par exemple, en 2004, est publié un guide républicain qui va être envoyé à l'ensemble des établissements scolaires et dans lequel cette thématique du communautarisme est très très importante, est très très importante. Voilà. Donc parallèlement, Françoise l'a dit, donc je développe pas tellement. On va promouvoir ce qu'elle a bien rappelé, hein, une nouvelle laïcité, laïcité qui justement est redéfinie comme une norme de neutralité, une norme d'invisibilité religieuse, mais qui s'applique non plus seulement aux agents de l'État, mais aussi et finalement plus particulièrement aux élèves. Donc en fait, on a une laïcité qui est beaucoup plus disciplinaire puisqu'il s'agit de contrôler l'expression religieuse dans l'espace scolaire. Il s'agit aussi de s'assurer de la bonne transmission des valeurs de la République. Et on a en fait une vision particulière puisque la religion musulmane est implicitement désignée, enfin appréhendée sous le jour des tensions qu'elle peut faire peser dans l'enceinte scolaire et sous le jour du décalage qui a résorbé entre d'un côté les modes de vie et les valeurs de certains segments des populations musulmanes, et de l'autre, un habitus républicain que l'école est chargée de développer. Alors, quatrième moment, donc un moment un peu de détente, hein, si je reprends le vocabulaire de la guerre froide, là on est plus dans la détente, c'est-à-dire qu'à part, oui et non, en même temps, c'est un petit peu compliqué. Entre 2012 et 2017, là on a à nouveau une inflexion et on a des ministres, donc il y a une alternance politique, et on a des ministres de l'Éducation nationale qui vont s'employer à dépolitiser quelque peu l'enjeu de l'islam à l'école et promouvoir une laïcité plus apaisée. Françoise l'a dit, ils le font largement sur c'est vrai, mais enfin on voit que par exemple dans le contexte post-attentat, la ministre de l'Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem va prendre soin de ne pas stigmatiser les populations musulmanes et de mettre en œuvre une laïcité plus tolérante à l'égard des signes d'islam. Donc c'est en particulier ces prises de position qui concernent les mamans voilées accompagnant les sorties scolaires. Néanmoins, il ne faut pas exagérer le changement parce qu'on est quand même dans une période justement d'attentats, hein, les attentats de 2015 et 2016. Et donc, au même moment, on a des politiques de lutte contre la radicalisation qui vont être développées, qui vont prendre beaucoup d'importance et donc qui vont contribuer à exacerber la vision de l'islam comme menace en y ajoutant une dimension de peur, hein, une dimension sécuritaire. Alors, est-ce qu'on est dans un nouveau moment aujourd'hui ? Bon, je serais bien incapable de le dire. En fait, la période la plus récente, lors des derniers mois, là, on a assisté à une repolitisation de la question du voile, de la question du problème musulman, autour notamment des prises de position de Jean-Michel Blanquer sur le fondamentalisme musulman. Donc, il a pu, par exemple, développer ses positions lorsqu'il a évoqué la scolarisation des enfants à 3 ans. Il a affirmé en fait que cette scolarisation était particulièrement peu développée pour les petites filles, justement parce que en raison de ce fondamentalisme musulman. Et puis on sait aussi les prises de position qu'il a pu avoir sur les mères voilées. Donc le voile n'est pas souhaitable dans la société française et l'école devrait en être préservée au maximum et devrait être préservée du communautarisme. Donc on a à nouveau le même discours, en fait, qui réapparaît. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans une autre actualité. Hein. C'est vraiment la réforme des retraites, les grèves qui sont au premier plan de l'actualité. Donc cette question du voile est un peu plus en retrait, mais ça montre bien qu'en fait, il y a tout une série d'acteurs convaincus par cette vision de la laïcité et que, de manière récurrente, c'est cette vision qui peut réémerger dans les discours politiques, y compris dans les discours ministériels de l'éducation nationale. Alors, pour résumer, en fait, l'une des particularités du contexte que je viens de décrire, c'est que finalement, depuis les années 1990, l'islam a pris une place centrale dans la façon de catégoriser les publics scolaires dits issus de l'immigration. On ne voyait pas forcément les choses comme ça, notamment au début des années 80. On ne voyait pas forcément ces publics à l'aune de leurs appartenances religieuses. Et cette vision-là est assez spécifique aussi, puisqu'en fait, elle se nourrit beaucoup de représentations négatives, elle se nourrit beaucoup de peur, loin en fait d'une tonalité un petit peu plus positive qui avait prévalu dans les années 70 et 80, lorsqu'il s'était agi de valoriser, un peu naïvement et de manière un peu problématique aussi, mais il s'était agi de valoriser les cultures immigrées. Alors voilà pour la présentation du contexte. J'aimerais en venir maintenant à ce qu'on peut constater, enfin ce qu'on peut observer dans les établissements scolaires. Alors comment les... J'ai travaillé en fait, j'ai fait des enquêtes dans les établissements, donc évidemment j'étais en contact aussi avec d'autres types de professionnels que les enseignants, mais je me suis quand même concentrée en termes d'enquête sur le regard des enseignants et enseignantes. Donc comment ces enseignants perçoivent-ils les appartenances religieuses de leurs élèves? Est-ce que l'islam est construit aussi sur le terrain comme un problème, ou est-ce que ça n'est pas le cas? Est-ce que la question religieuse, finalement, se pose assez peu dans les établissements? Et si elle se pose, de quelle manière? Donc je m'appuie là sur deux enquêtes de terrain que j'ai conduites à une dizaine d'années d'intervalle. La première enquête, en fait, est assez ancienne, puisqu'il s'agissait de ma recherche doctorale. Donc, je l'avais commencé. Donc, c'est une enquête qui s'est déroulée de 2003 à 2007, il me semble, et qui a concerné seulement les écoles primaires. Voilà. Une 35 classes d'écoles primaires situées dans des villes différentes. La seconde enquête a été conduite plus récemment, entre 2012 et 2017, et j'ai élargi l'investigation en prenant en compte aussi l'enseignement secondaire. C'est-à-dire que j'ai enquêté aussi dans des collèges et des lycées, donc prioritairement auprès des enseignants et des enseignants d'histoire-géographie et des enseignants qui assuraient en fait l'enseignement moral et civique dont Françoise a parlé. Donc parfois, c'était des professeurs de philosophie ou de SES en lycée, mais très majoritairement, il s'agissait de professeurs d'histoire-géographie. Alors, dans les deux cas, dans la première enquête comme la seconde, j'ai souhaité diversifier au maximum les terrains d'enquête, puisque j'étais partie du constat que sur les questions d'immigration, de diversité, d'ethnicisation des relations scolaires, les enquêtes portaient essentiellement sur des établissements scolaires très particuliers, ségrégés, de l'éducation prioritaire, comprenant une très grande majorité d'élèves de milieux populaires issus des immigrations. Voilà. Alors moi, mon idée, c'était d'étudier les rapports majoritaires-minoritaires, mais dans des configurations diverses. Donc j'ai aussi enquêté dans des établissements qui étaient beaucoup plus mixtes socialement et en termes d'origine des élèves. Et ce que j'ai voulu aussi, c'est inclure des établissements beaucoup plus favorisés socialement, donc dans les centres-villes, par exemple, dans lesquels il y avait très peu d'élèves issus de l'immigration, parce qu'en fait, l'ethnicité se fabrique aussi du côté du majoritaire, et c'était ça qui m'intéressait. Et puis, ça permet aussi de ne pas considérer les problèmes scolaires sous l'angle uniquement de contextes scolaires qui sont en fait très particuliers. Alors, à l'enquête, que constate-t-on ? Donc, on constate une catégorisation plutôt négative de l'islam qui est assez répandue parmi les enseignants. Mais je vais tout de suite nuancer en montrant qu'en fait, ça recouvre des positionnements qui sont assez différenciés et des logiques qui sont assez différentes selon les enseignants. Alors, Finalement, est-ce que c'est si étonnant ? Je dirais que non, puisque les enseignants sont aussi des citoyens comme les autres, et que donc ils évoluent dans un contexte social où la méfiance à l'égard de l'islam est assez forte. On peut avoir en tête, par exemple, ce que montrent régulièrement les enquêtes de la CNCDH, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, et notamment, dans ces enquêtes, il y a un indice de tolérance à l'égard des minorités, et ce qu'on voit, c'est que cet indice n'est pas particulièrement élevé pour ce qui concerne la minorité musulmane. Alors, dans le dernier rapport, l'indice est plus favorable, le rapport de 2018, l'indice est plus favorable, et en fait, la minorité la plus stigmatisée ne concerne plus les musulmans, mais concerne les Roms, avec un indice de tolérance extrêmement faible pour les Roms. Voilà, donc les enseignants sont des citoyens comme les autres, et ils sont... Voilà, majoritairement, ils se situent à gauche, mais ce que montrent bien les enquêtes de la CNCDH, c'est que, y compris à gauche, on a des représentations qui peuvent être négatives de l'islam. Donc voilà. Après, ce qu'on peut aussi ajouter, c'est que les enseignants ont une position spécifique pour plusieurs raisons. D'abord, il faut considérer leur rapport à la religion. Et ce qu'on constate dans les enquêtes, c'est que la visibilité des pratiques et des identités religieuses des élèves gênent beaucoup d'enseignants que j'ai pu rencontrer, puisque pour beaucoup d'entre eux, ils font partie de familles, ils ont des entourages qui ne sont pas pratiquants religieusement, qui sont finalement souvent non-croyants également. Il y a beaucoup d'athées parmi les enseignants. Et qu'en plus, comme enseignants, ils s'inscrivent dans une institution qui a historiquement lutté contre l'emprise sociale de la religion. Donc cet héritage-là compte, évidemment. Et puis, par ailleurs, et ça je l'ai montré en évoquant le contexte politique et institutionnel, ils évoluent aussi dans une institution dans laquelle a été affirmée depuis le début des années 2000 une vision très spécifique de la laïcité qui en fait une entreprise de contrôle des signes et expressions religieuses. Et comme ils doivent, en tant que professionnels, appliquer la loi de 2004, ils ne sont pas en première ligne. Évidemment, en première ligne, ce sont les équipes de direction et de la vie scolaire. C'est vraiment ces équipes-là qui ont parfois, de manière un peu tragique, je vais y venir, à réguler tout ça, à réguler et parfois ça crée beaucoup de conflits avec les élèves. Donc ils ne sont pas en première ligne, mais ils ont quand même à participer de l'application de cette loi. Et forcément, ils ont en partie intériorisé la conception de la laïcité qui va avec. Alors, ceci dit, on constate une variation importante dans les prises de position des enseignants. C'est-à-dire qu'il y a une catégorisation de l'islam qui est plutôt négative, mais qui prend des sens différents selon les enseignants, selon leurs orientations idéologiques, j'entends par là leurs orientations politiques au sens large, syndicales, religieuses, puisque, évidemment, beaucoup d'enseignants sont athées, mais moi, dans mon idée de diversifier un peu les terrains d'enquête, j'ai aussi diversifié les profils des enseignants pour voir en quoi ça pouvait jouer. Et donc, j'ai aussi des enseignants qui sont catholiques pratiquants. On va voir, d'ailleurs, que ça change un petit peu la manière dont ils peuvent voir les choses. Donc, et puis, ce qui compte aussi, c'est les significations que ces enseignants donnent à leur métier, et en particulier, le sens qu'ils peuvent donner à leur implication dans des écoles de l'éducation prioritaire. Alors, je vais essayer du coup d'illustrer ça avec différentes positions, différents types de représentations sur l'islam. Et donc, dans le discours de certains enseignants qui, de fait, sont minoritaires parce qu'ils ont des profils sociologiques et surtout idéologiques particuliers. Donc, dans le discours de certains enseignants, on peut repérer une forme d'altérisation très nette de l'islam qui, en fait, vient se nourrir d'une conception culturelle de l'identité nationale marqué par la référence, qui peut être explicite ou plus implicite, à la tradition catholique. Donc justement, ces enseignants sont catholiques, catholiques pratiquants pour certains. Ils sont plutôt orientés à droite politiquement et ils exercent dans des contextes populaires, hein, dans des écoles populaires, mais sans l'avoir véritablement choisi, ou en tout cas, ils expriment une lassitude par rapport aux difficultés du métier qu'ils ressentent dans ce type de contexte. Donc cette orientation, elle est visible dans le cas de cette enseignante que j'ai interrogée en 2005. Et à qui je demande si finalement, enfin je pose la question un petit peu des valeurs qu'elle a à transmettre en tant qu'enseignante, et elle se montre plutôt prudente et elle finit par me dire de quel droit est-ce que je leur ferai donc aux élèves passer telle ou telle valeur, ça ne leur correspond pas, les valeurs françaises c'est très rattaché à mes origines judéo-chrétiennes, ce qui correspond pas, ça ne correspond pas du tout à des familles qui sont musulmanes et qui ont une toute autre manière de penser. Donc on a là, en fait, dans le discours d'Emmanuel, un public scolaire qui se caractérise avant tout par sa différence, par son altérité, une altérité qui est définie à la fois par l'origine étrangère, mais aussi par la religion. Donc c'est un discours très spécifique, mais que un certain nombre d'enseignants que j'ai rencontrés peuvent développer, et qui, en fait, dans lequel en fait on ne trouve pas trace de cette croyance dans la capacité d'acculturation de l'école, par l'école, hein, et c'est finalement plutôt l'idée d'un impossible partage des valeurs qui domine et qui est mise en avant. Alors, donc c'est un cas quand même très, très minoritaire. Dans le cas d'enseignants, justement, d'autres profils, on trouve aussi une forme de distance à l'égard de l'islam, des formes d'inquiétude, mais elle ne repose pas, cette inquiétude, sur les mêmes logiques. Donc là, on a un discours sur l'islam qui est teinté d'inquiétude, mais qui s'inscrit dans une vision plus générale du métier, qui insiste sur les problèmes du public scolaire. Donc ce sont des enseignants qui, pour le coup, là, sont plutôt politiquement à gauche, qui sont en général non religieux, et qui travaillent dans l'éducation prioritaire ou dans des établissements dont le public est devenu plus populaire. Et en fait, ils vivent cette évolution de manière négative comme une source de difficultés nouvelles. Et donc, leur représentation de l'islam s'inscrit en fait dans une vision, dans une conception plus générale d'un public avec qui il est difficile de travailler, un public qui est en partie inadapté aux exigences de l'école. Et donc, plus particulièrement sur l'islam, on va avoir tout un tas d'inquiétudes qui sont exprimées. Et ce qui est intéressant, parce que j'ai fait des enquêtes qui étaient assez éloignées dans le temps, c'est qu'en fait, on trouve le même type de discours avant les attentats de 2015 et 2016 et ensuite. Finalement, les attentats ne font qu'exacerber des termes, des mots, une vision qui était déjà là. Donc, je ne vais pas lire toute la citation, mais on voit bien les inquiétudes qu'il y a. Donc, dans le premier cas, justement, c'est un entretien de 2005, une enseignante d'école primaire qui dit craindre d'enseigner les guerres de religion dans sa classe parce que, justement, elle me dit, c'est toujours dans le vif du sujet, hein, cette opposition entre catholiques et musulmans. Et comme dans sa classe, il y a beaucoup de musulmans, eh bien, elle craint finalement qu'ils se braquent et qu'ils expriment à nouveau cette haine des catholiques ou cette opposition aux catholiques. Et elle continue, je n'ai pas mis toute la citation, mais elle dit surtout que des fois en famille, et elle me fait ça, donc c'est assez fermé. Et en fait, elle m'explique qu'elle a voulu l'année passée faire visiter une église et c'est que ça avait créé tout un tas de problèmes parmi les parents, etc. Autre discours, donc plus de 10 ans plus tard, cette fois dans un collège, avec un enseignant qui m'explique que l'islam prend une place de plus en plus importante dans l'identité des élèves et qu'il y a des formes d'intolérance en fait entre élèves, avec par exemple des élèves musulmans qui sont pointés du doigt parce qu'ils mangent du porc à la cantine, et puis une référence centrale en fait, qui est faite à l'islam dans les classes par les élèves. Et donc toutes ces évolutions, toutes ces situations sont considérés par les enseignants sous le prisme du risque de radicalisation, quels que soient en fait les signes dont ils parlent. Est-ce simplement parce que les pratiques religieuses sont plus fréquentes, sont plus massives? Est-ce que c'est parce que les enfants parfois sont tout à fait prosélytes, hein? Donc ils mélangent en fait différentes situations pour en faire, sous le prisme de cette crainte de la radicalisation. On a aussi tout un discours sur le communautarisme qui se retrouve tout à fait aussi sur le terrain avec ces enfants qui seraient ou ces adolescents qui seraient par exemple amis parce qu'ils ont la même religion et et spécifiquement ici parce qu'ils sont musulmans. Alors chez d'autres enseignants encore. J'ai dit qu'il y avait une gêne à l'égard de la visibilité des identités religieuses qui était en fait un trait assez partagé dans le monde enseignant. Eh bien, ce qu'on peut voir, c'est que chez certains, il y a clairement aussi une orientation anti-religieuse. Et qu'il s'agisse de l'islam ou d'ailleurs du catholicisme, ces enseignants expriment en fait une crainte. Donc, par exemple, une enseignante qui me dira qu'elle est gênée quand elle voit des enfants qui sont amis avant tout parce qu'ils partagent la même religion. Et elle me dit, bon, c'est surtout l'islam, mais finalement, moi, j'ai du mal avec la religion tout court. Et donc, après, elle va évoquer un certain nombre de situations qui se rapportaient plutôt au catholicisme dans son école. Et donc, c'est vraiment plus cette orientation anti-religieuse qui explique son positionnement sur l'islam. Et enfin, on a, parce que ce n'est pas le dernier cas, mais on a aussi, et ça je l'ai vu beaucoup à l'enquête, on a des représentations négatives de l'islam qui s'alimentent plus particulièrement d'un discours sur l'égalité filles-garçons. Ce n'est pas étonnant parce que c'est un discours qu'on retrouve plus largement dans le monde politique et institutionnel. Et donc c'est un discours qui est surtout porté par des femmes, par des enseignantes femmes, qui, d'une manière ou d'une autre, soit elles se disent féministes, soit en tout cas elles ont beaucoup travaillé sur les questions d'égalité entre les sexes dans leur classe. Et donc ces femmes enseignantes portent un regard qui est teinté d'incompréhension, voire de révolte à l'égard des jeunes filles de leur classe, de leur établissement, qui peuvent porter le voile lorsqu'elles apprennent ou qu'elles découvrent que ces filles portent le voile. Et donc, je me souviens d'une enseignante en particulier qui observe avec moi une jeune fille sortir de son établissement, de son lycée, et revêtir le voile, une jeune fille de sa classe. Et elle me dit, je ne comprends pas pourquoi elles font ça. Elles se mettent elles-mêmes dans les fers. C'est dingue. Et voilà, donc après, ça suscite toute une conversation. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que leur représentation de jeunes filles musulmanes dominées dans leur quartier et dans leur famille entre en fait en porte-à-faux avec le constat qu'elles font finalement sur le terrain, que ces jeunes filles adhèrent de manière volontaire à ces pratiques religieuses. Et elles me disent d'ailleurs souvent qu'il s'agit de jeunes filles qui jouent un rôle de leadership dans leur groupe d'amis, et que donc voilà, il y a un discours qui est très contradictoire sur ces jeunes filles. Enfin, donc dernier cas, par contraste avec toutes les attitudes que je viens de décrire, on observe aussi une petite minorité d'enseignants, plus rare dans les enquêtes, parce que là aussi ils ont des profils idéologiques particuliers, qui manifestent une attention, une volonté consciente de lutter contre toute forme de stigmatisation de la religion musulmane. Donc ces enseignants sont souvent engagés dans des mouvements politiques de gauche ou d'extrême gauche ou dans des syndicats, et ils se caractérisent en fait par le sens militant qu'ils accordent à leur métier. Ils enseignent souvent dans l'éducation prioritaire et ils ont une vision très politisée justement de la question musulmane. Donc je vais parler d'une enseignante pour vous situer un peu plus, incarner un peu plus ce profil. Donc c'est le cas d'une enseignante que j'ai appelée Anna, professeure d'histoire-géographie, 35 ans, je l'ai rencontrée en 2015. Elle est militante à Sud Éducation. Elle fréquente aussi des cercles de réflexion décoloniaux et elle se montre critique tant lors de l'entretien que je fais avec elle que dans la salle des professeurs, parce que je l'ai déjà entendu intervenir là-dessus, à l'égard des stéréotypes que, à ses yeux, stéréotypes sur l'islam qui, à ses yeux, sont plutôt fréquents dans les milieux enseignants. Et en fait, elle est la seule enseignante que j'ai rencontrée à ne pas porter de discours négatif sur le port du voile. Et elle m'expliquera à un moment avoir répondu à ses collègues qui, pour elle, avaient une vision misérabiliste des jeunes filles voilées de son lycée, qu'en fait, certaines de ses élèves étaient bien plus féministes que les profs ici. Hein, donc c'est quelque chose qu'elle aurait dit en salle des profs pour voilà, contrer ce qui lui apparaissait comme des stéréotypes. Alors ce profil ne se retrouve pas nécessairement, puisqu'on m'a posé la question lors d'une communication précédente, ne se retrouve pas nécessairement chez des enseignants qui seraient eux-mêmes musulmans. Hein. Il y a eu un certain nombre de travaux sur les... Alors pas sur les enseignants musulmans, mais sur les enseignants dits issus de l'immigration. Et en fait, on voit une forte diversité de leur position sur ces questions de diversité, justement de diversité ou d'ethnicité. Et alors pour le coup, par rapport à l'islam, c'est la même chose. Donc moi, j'ai interrogé deux enseignants musulmans. Donc l'un des deux relevait plutôt du profil que je viens d'évoquer, mais l'autre pas du tout. Et c'est plutôt un discours inquiet aussi sur l'islam qu'il développait, cet enseignant-là. Et il contrastait d'ailleurs l'attitude des différentes générations de l'immigration. Les générations plus anciennes, finalement, auxquelles il se rattachait, hein, sans le dire, étaient, selon lui, je cite, « attachées à la France et à la laïcité et ne mettaient pas en avant leur religion comme ça. » Comme ça, c'est-à-dire comme ses élèves le font aujourd'hui. Alors, on a cette catégorisation négative de l'islam chez beaucoup d'enseignants, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'elle n'a pas nécessairement d'effet pratique. Parce que là, je vous ai rapporté des représentations, hein, des discours, mais qu'est-ce que ça donne, en fait, concrètement, dans la gestion des situations scolaires, dans la gestion des relations avec les élèves ? Alors, ce qu'il faut voir, en fait, c'est que tout d'abord, il y a beaucoup de variations locales et que l'islam n'est pas nécessairement construit comme un problème dans certains établissements. Je vais contraster deux établissements, alors pour le coup, très opposés. Hein. Mais donc, j'ai eu l'occasion d'enquêter dans un lycée où la situation s'est révélée particulièrement tendue. Ce qui fait d'ailleurs que je n'ai pas pu enquêter auprès des élèves. Hein. On me l'a formellement interdit d'interroger les élèves, en tout cas dans l'enceinte de l'établissement, parce qu'ils ne pouvaient pas tellement contrôler ce que je faisais en dehors. Mais voilà, donc c'est un lycée que j'ai enquêté en 2014-2015. Ce lycée connaît, dès la rentrée 2014, un certain nombre d'incidents liés au port du voile ou d'autres tenues religieuses qui, se développent dès la rentrée 2014. Donc par la suite, après les attentats de janvier 2015, certains élèves vont tenir des propos qui vont être jugés inacceptables dans ce contexte des attentats de janvier et être exclus. Il y en a très peu qui seront exclus, mais il y en a quelques-uns. Un groupe de travail sur la laïcité va se monter juste dans ce contexte-là. D'ailleurs, la première réunion de ce groupe de travail à laquelle j'ai assisté s'ouvre par une lecture, Françoise, tu parlais de Henri Pénarouise, s'ouvre justement par la lecture par l'approviseur d'une citation d'Henri Pénarouise. Donc ce qu'on voit, comment ils vont travailler, ces enseignants et l'équipe de direction sur la laïcité ? Alors ce qu'on voit, c'est que l'équipe de direction et une partie des enseignants, ceux qui font partie de ce groupe, pas tous d'ailleurs, mais certains d'entre eux, vont présenter l'établissement presque avec un vocabulaire guerrier, quoi, mais comme un camp retranché, comme un champ de bataille, comme une sorte de forteresse assiégée contre... assiégée par qui ? Donc assiégée par certaines familles musulmanes du quartier qui seraient promptes à se mobiliser contre l'école laïque, contre ses valeurs et les savoirs qu'elle porte. Donc, ce lycée a une situation spécifique qui est liée à toute une série de facteurs. D'abord, il est situé dans une ville et dans un quartier où il y a eu un certain nombre de départs des jeunes pour le djihad. L'établissement, du coup, a des liens très étroits avec la sécurité intérieure. Et donc, voilà, ça renforce aussi la vision un peu policière qu'ils peuvent avoir de la mise en pratique de la laïcité, hein, qui se résume beaucoup à un contrôle, en fait, des signes et des comportements religieux des élèves. Il y a aussi le fait que les pratiques religieuses musulmanes sont dans le quartier plus importantes et plus visibles qu'ailleurs, et que aussi la direction a vraiment l'ambition de montrer qu'elle n'est pas laxiste sur ces questions, parce que le lycée a mauvaise réputation, c'est un des plus mal classés scolairement, il est régulièrement pointé du doigt, et donc l'idée c'est de montrer que quelque chose est fait, Hein. Voilà. Alors là, je vous emmène dans un autre monde social. Donc, j'ai aussi enquêté dans des établissements pour lesquels la question religieuse n'était pas une question, en fait, tout simplement dans le quotidien scolaire. Donc, par exemple, j'ai enquêté dans une école primaire située dans le centre-ville de Rennes et dans un collège, là aussi, situé en Ille-et-Vilaine, plutôt dans une zone semi-rurale. Et là, on m'a répondu que, voilà, les premiers entretiens que je faisais avec la chef d'établissement, par exemple, et on m'a répondu qu'il n'y avait pas de problème de laïcité parce qu'il n'y avait pas d'élèves musulmans ou seulement très peu dans ces établissements. Donc ce que ça nous dit, bon, c'est quand même une réponse très particulière puisque ça nous dit qu'évidemment ça nous dit aussi qu'il y a une représentation négative de la religion musulmane perçue sur le mode de l'évidence comme nécessairement sous l'angle des problèmes qu'elle pose à la laïcité scolaire. Mais ce que ça nous dit aussi en même temps, c'est la faible importance, voire la non-importance de ces enjeux dans le quotidien des établissements. Et donc, pour finir, je voudrais évoquer le fait que, même dans des établissements où l'islam a pu créer des incidents, on observe, en fait, globalement, dans des contextes, dans des situations plus ordinaires, une gestion qui est finalement assez pragmatique de la laïcité scolaire et des questions religieuses à l'école. D'abord, dire en fait que les incidents et les situations conflictuelles, y compris dans le lycée là, que j'ai évoqué tout à l'heure, j'y suis retournée. Bon, on n'a plus du tout le même contexte. C'était aussi lié à cette période pré- et post-attentat. Et aujourd'hui, la situation a quand même évolué. Et donc, les incidents en situation conflictuelle observés ou rapportés par les enquêtés sont globalement très rares. Ils ne concernent que quelques établissements dans mon enquête. Et même dans ces établissements, ils sont en nombre très limité. Et en fait, finalement, la gestion ordinaire des manifestations de l'islam à l'école, en dehors de ces cas tendus, permet de met plutôt en évidence un certain pragmatisme des acteurs et des actrices scolaires qui font ce qu'ils peuvent pour trouver des solutions pratiques, des compromis, de manière à faire en sorte que les élèves poursuivent leur scolarité dans les meilleures conditions possibles. Et donc, en fait, dans les établissements, c'est une autre conception de l'intégration qui s'affirme, qui est beaucoup plus pragmatique et finalement qui est beaucoup moins culturelle et identitaire que dans les discours institutionnels de l'éducation nationale. C'est une intégration, non pas par adhésion et conformation à des valeurs et au bon comportement républicain, c'est une intégration qui signifie une participation relativement sereine, une inclusion peut-être aussi à la vie du groupe classe et de l'établissement, par opposition à ce qui pourrait être des formes de conflit ou de rupture avec la vie scolaire. Donc, je ne suis pas la seule à trouver ça à l'enquête. On a une enquête qui s'appelle Redisco, qui est une enquête de grande ampleur qui porte sur les questions de religion et laïcité, qui est conduite à l'Université de Lyon et qui fait aussi le constat d'un certain pragmatisme. Alors, comment ça se manifeste concrètement ? Eh bien, je vais vous citer un cas, et je vais finir là-dessus. Donc, dans un lycée que j'ai enquêté, situé en région parisienne, le proviseur et une partie des personnels scolaires tolèrent le port de certains signes religieux, et en l'occurrence, le port de longues robes. Hein, il y a tout un débat dans les lycées. En fait, la loi de 2004 crée des débats et des problèmes infinis, puisque ce n'est plus le voile maintenant qu'il s'agit d'interpréter, c'est d'autres signes religieux. Et donc, certains établissements tolèrent les robes longues, quand d'autres, et notamment le premier lycée que je vous ai cité, là, avec une situation tendue, là, les robes longues n'étaient pas tolérées, ou en tout cas, on demandait aux jeunes filles de mettre une petite ceinture de couleur pour que ça fasse un petit peu moins rigoriste comme tenue. Et donc là, dans ce lycée-là, en région parisienne, les robes longues sont tolérées. Et le proviseur, quand je le questionne là-dessus, va me dire, je vous ai mis la citation, il me dit, mais moi, du moment qu'elles, donc les jeunes filles qui mettent ces robes longues, qu'elles apprennent, c'est ça qui compte. Donc il n'a pas envie d'entrer dans des conflits avec les jeunes filles, avec les familles. Il faut qu'elles soient là, il faut qu'elles apprennent, et c'est ça qui compte le plus. Après, il y a d'autres exemples, hein, les aménagements qui sont faits dans les cantines, bien sûr, mais aussi lors des voyages scolaires. Il y a des familles qui insistent pour que leur enfant, leur fille en particulier, ne soit pas mise dans des chambres mixtes, hein, dans la famille qui va accueillir leur enfant. Et finalement, les acteurs scolaires tendent quand même à prendre en compte, pour que ces jeunes filles puissent partir et participer au voyage scolaire, tendent à prendre en compte en fait ces demandes-là. Donc pour conclure, en une phrase, donc on a une situation un peu ambivalente, puisque d'un côté, on a dans les établissements scolaires des représentations qui sont quand même négatives et qui peuvent s'actualiser au moment de situations conflictuelles, mais aussi on a une gestion plutôt pragmatique et plutôt ouverte des situations qui mettent en jeu les pratiques religieuses musulmanes. Donc en fait, ça pose la question des outils, des visions du monde, des types de savoirs aussi qu'utilisent les enseignants lorsqu'ils gèrent ces situations. Et en fait, ce qu'on voit, enfin ce que j'ai essayé de montrer, et je pense que vous l'avez compris, c'est qu'en fait, sur ces questions-là, les enseignants s'appuient beaucoup sur ce qu'ils sont, hein, sur leurs orientations, sur leurs valeurs propres. Je pense que de toute façon, c'est normal, hein, on enseigne aussi avec ce que l'on est, et voilà, on ne peut pas faire autrement. Mais leur façon de voir les choses tient aussi beaucoup au discours qui circule dans les médias, dans les débats politiques, et aussi aux représentations de sens commun sur l'islam et ses supposés dangers. Donc ce que ça veut dire, c'est que ce qui fait défaut, c'est un ensemble de savoirs professionnalisés sur la question, qui serait transmis en formation initiale, en formation continue, et aussi par des directives, des textes que fournirait l'institution. Moi, je travaille, j'enseigne dans une SP, un INSP maintenant, et en fait, on voit bien que ça n'existe pas. Alors, la sociologie, les sciences sociales sont peut-être aussi un peu en cause, dans la mesure où, finalement, je trouve qu'on manque de travaux quand même, il y en a, hein, mais on en manque, sur la socialisation religieuse des enfants et des adolescents aujourd'hui. Il y en a, mais à mon sens, il n'y en a pas assez. Et puis, après, il faudrait aussi que ces travaux-là soient transmis, et ça n'est pas le cas dans la formation des enseignants. Et en fait, la constitution de ces savoirs plus professionnalisés sur les questions religieuses, qui d'ailleurs ne concernent pas que l'islam, hein, ça serait intéressant aussi justement d'élargir le regard, eh bien, pourrait produire une gestion plus apaisée, mais sans doute aussi plus collective, en fait plus institutionnelle, de ces questions religieuses, et sans doute que ça contribuerait à réduire le caractère très tendu et parfois tragique et le malaise que peuvent ressentir certains enseignants. Voilà, merci.